Mesdames et messieurs, les travaux de ce colloque que je rejoins maintenant, mais dont j'ai, parce que j'ai été retenu, mais dont j'ai pu apprendre par les entretiens que j'ai eus ce midi au moment du déjeuner, à quel point il est passionnant, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'il réunisse beaucoup de monde, même un samedi après-midi, que ne soit pas du tout seul dans la salle, au contraire. Et nous allons, dans cet après-midi, d'abord, écouter le professeur Daniele Menozzi, qui est professeur, qui a été professeur d'histoire contemporaine et d'histoire de l'Église dans plusieurs universités et qui a terminé sa carrière de professeur en exercice à l'École normale supérieure de Pise, qui est aujourd'hui professeur émérite. Alors, il a beaucoup publié dans le champ de l'histoire de l'Église, de la Révolution française à nos jours. Il est aussi l'auteur, avec son collègue Giovanni Filoramo, d'une considérable Storia del Cristianesimo, de l'Antiquité à nos jours, 4 volumes. Et il est aussi l'auteur de nombreux livres sur l'histoire de l'Église, et en particulier concernant la papauté, je peux en citer un, I Papi del Novecento, paru au début de ce millénaire. Et vous allez maintenant nous entretenir de patron de l'Église universelle, à modèle des travailleurs, la dévotion à Saint-Joseph au XIXe siècle. Nous y étions entrés au XIXe siècle en fin de matinée, et nous continuons maintenant avec Daniele Menozzi. Je vous laisse la parole.
Merci. Merci de l'invitation, merci aussi de cette présentation. Dans la première moitié du XIXe siècle, la dévotion à Saint-Joseph, en particulier sous le titre des saints patrons de la bonne mort, connaît, comme on vient d'entendre avant la pause, un développement extraordinaire. Pie IX, qui monte sur le trône pontifical en 1846, encouragea cette tendance en donnant de larges indulgences aux diverses formes de piété envers les patriarches de Nazareth, comme il l'appelait, auxquels il se disait particulièrement dévoué. Cet encouragement prend un accent nouveau dans les discours solennels au consistoire des cardinaux du 9 juin 1862, où le pape dénonce avec un terme dramatique la révolution italienne, il parle de révolution italienne, qui était allé jusqu'à lui enlever sa domination temporelle. La proclamation du royaume d'Italie est présentée comme une expression de la conspiration diabolique en cours dans le monde moderne pour détruire l'Église et la civilisation. Ces tonalités et ces arguments sont habituels dans les interventions pontificales de ces années-là. Mais à la fin de ses discours, est introduit un détail nouveau, petit, mais significatif pour notre sujet. Les remèdes à cette situation tragique est indiqué dans un recours plus intense à la prière directe, non seulement, comme d'habitude le pape faisait dans ces années-là, à l'Immaculée Conception, mais aussi au Saint-Époux de la Vierge, Joseph. La proclamation du dogme de l'Immaculée Conception de Marie, qui eut lieu le 8 décembre 1854, fut voulue par Pie IX pour renforcer un culte auquel il attribua la capacité de contrer les revendications d'autonomie politique et sociale des hommes modernes. L'association de la prière à Saint-Joseph avec le culte à Marie Immaculée attribuit aussi à cette forme de piété, à la piété à Saint-Joseph, une coloration antimoderne. Depuis 1862, de nombreuses interventions du pape ont soutenu la nécessité d'intensifier les prières adressées soit à l'Immaculée Conception et soit à Saint-Joseph, dans le but d'implorer les saluts d'un monde moderne qui refuse la subordination à l'Église. En mai 1866, s'adressant au père Rosière, auteur d'œuvres de dévotion qui, à l'époque, avait connu un succès éditorial extraordinaire, Pinef explique les raisons de la nouvelle direction par lui assignée au culte envers Joseph. Il dit « Il faut encourager la dévotion des fidèles pour obtenir de Dieu son intervention dans une société moderne qui mène une attaque mortelle contre l'Église. La médiation de la Vierge auprès du Tout-Puissant est décisive à cet effet. Mais la médiation de Saint-Joseph vers Marie est également fondamentale. En fait, dit le pape, comment l'épouse pourrait-elle se soustraire aux demandes d'un mari qu'elle avait honoré durant sa vie? L'attribution d'une valeur politico-sociale à la dévotion au Saint-Joseph est renforcée par la culture catholique contemporaine. L'œuvre du lazariste Giacomo Murena est née un exemple. Il y en a plusieurs, mais je me limite ici à rappeler cet exemple. S'inspirant à la nouvelle de la convocation prochaine du Concile Vatican I, il commença à publier dans le journal publié à Modène, Il Divoto di San Giuseppe, Les Dévots de San Giuseppe, une série d'articles dans lesquels il demandait que l'Assemblée œcuménique attribua solennellement au saint le titre de patron de l'Église universelle. Le groupe d'ecclésiastique de Modène, à l'origine de l'initiative éditoriale, s'efforce certes de promouvoir une augmentation de la piété envers Joseph selon les caractères intimistes, thaumaturgiques, réconfortants qui constituent ces traits traditionnels. Mais Murena, tout en appréciant et partageant ses efforts, souligne la nécessité de lui attribuer une orientation différente. En fait, il note que les grandes attentes qui avaient accompagné la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception avaient été déchues. En particulier, la Révolution italienne, manifestation exemplaire de l'assaut de la modernité contre l'Église, non seulement n'a pas arrêté, mais poursuit encore son cours avec plus de virulence. Comment donc remédier à cette catastrophe? Selon les religieux lazaristes, on peut raisonnablement supposer que pour la réalisation des espoirs que le pape avait liés à la définition de l'Immaculée Conception, la Providence attend une glorification semblable de Saint-Joseph. Or, durant sa vie terrestre, le saint a été le gardien de Jésus et de Marie. Il les a sauvés, par la fuite en Égypte, du danger de mort qui les menaçait. L'Église, qui voit son premier noyau dans la Sainte Famille, et nous l'avons entendu il y a quelques heures, est maintenant soumise à l'attaque destructrice de la société moderne. Elle peut donc, en lui attribuant solennellement les titres de patron, trouver une protection similaire. De plus, selon toute vraisemblance, Marie, voyant enfin son mari vénéré par tous les fidèles sous un titre qui rappelle les besoins urgents de l'institution ecclésiastique actuelle, n'hésitera pas. Et en effet, ne lui a-t-elle pas toujours obéi durant sa vie terrestre à répondre aux attentes que Pinef avait associées jusqu'alors sans résultat à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Si le premier concile œcuménique du Vatican procède à la reconnaissance formelle et solennelle de Joseph comme saint patron de l'Église, on pourra enfin remporter la victoire sur la modernité et obtenir par loi les retours en société chrétienne. Parmi les partisans italiens de la dévotion, une discussion intense se développe alors sur l'opportunité de la caractériser de cette façon. C'est une intervention romaine qui en détermine le résultat. En juillet 1869, un consultant de la Congrégation des Rites, les dominicaines Pio Gerolamo Saccheri, publia son avis négatif sur l'expansion des honneurs liturgiques à Saint-Joseph que les groupes réunis autour du périodique de Modène avaient demandé au dicastère. Tout de suite, Muréna se rendit alors à Rome, obtenant que les supérieurs des ordres religieux réunis pour les conciles signent sur proposition du général de Récollet Bernardino de Portogruaro, une pétition à faire circuler parmi tous les pères les pères conciliaires pour demander une décision du pape sur la reconnaissance formelle à Saint-Joseph du titre de saint patron de l'Église. À cette proposition s'associent deux postulats. L'un, premier signataire est l'évêque de Baltimore, Spalding, vient du groupe des pères résidant au séminaire français de Rome, mis en mouvement par l'évêque de Beauvais. L'autre, soutenu par la Revue des Modènes et promu par une association religieuse, la Société pour la promotion de Saint-Joseph comme patron de l'Église universelle, fondée à Ferrare par les mêmes lazaristes. Ces trois textes soutiennent la même demande. Il est nécessaire d'attribuer à Saint-Joseph le titre de patron de l'Église universelle, car, tout comme les saints avaient en son temps gardé et défendu la Sainte Famille contre tout danger, il lui appartient encore, dans les déjà dangers présents de l'Église, de la protéger de l'assaut du monde moderne. En raison de l'interruption du Vatican I, aucune de ces propositions, qui avaient recueilli auprès des pères conciliaires un nombre significatif de soutiens, n'est prise en considération. Mais Pie IX, anticipant les décisions formelles du dicastère compétent, en ordre à l'extension des honneurs liturgiques à Saint-Joseph, intervient personnellement. Par son ordre direct, le 8 décembre 1870, et ce n'est pas un hasard si les textes insistent pour rappeler que le pape voulait les rendre publics à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, la Congrégation des Rites publie les décrets Quemad Modum Deus, par lesquels Saint-Joseph était déclaré patron de l'Église universelle et par lequel était instituée la célébration liturgique du 19 mars comme un rite double des premières classes, c'est-à-dire les plus hauts niveaux liturgiques dans la liturgie romaine. Les textes révèlent clairement l'intention qui amoue Pie IX. Les documents mettent en effet en relation la demande de patronage arrivée des évêques et des fidèles et la diffusion d'une attaque destructive et définitive contre l'existence même de l'Église. Les documents utilisent des expressions qui se réfèrent au concept répandu dans la curie après la brèche de Porta Pia en septembre 1870. L'entrée des troupes italiennes à Rome représente la mise en œuvre diabolique d'une agression violente contre la papauté et l'Église, à tel point que l'on peut craindre que les plans pervers pour annihiler le catholicisme aient maintenant atteint ce stade final apocalyptique. Cependant, le flot extrême de la fin des temps peut être encore évité par une intervention de Dieu déterminée par la prévalence en lui de la miséricorde sur la volonté juste de punir un monde moderne en proie à la révolution. Mais seule l'intensification des prières des fidèles pour obtenir l'intercession de ceux qui, dans la cour céleste, sont plus sensibles aux misères des hommes peut permettre d'arrêter la justice divine et de rendre à l'Église la condition heureuse des temps de la chrétienté médiévale. Dans ce contexte, la proclamation du patronage de Saint-Joseph sur l'Église universelle constitue l'effort suprême pour obtenir cette augmentation de la piété qui permet enfin d'inverser la marche de l'histoire vers l'annihilation de la religion et la dissolution de toute forme de civilisation et par là même d'ouvrir la période qui verra le triomphe final de l'Église et du pontife sur la société moderne. Les actes ultérieurs du pape et de la curie, en particulier la lettre apostolique Inclitum Patriarcam du 7 juillet 1871, qui règle les honneurs à rendre à Saint-Joseph dans la messe prévue par la liturgie romaine lors de deux fêtes qui lui sont consacrées, les 19 mars, fête de Saint-Joseph, et sa fête comme patron de l'Église universelle placée à la troisième dimanche après Pâques, confirme la direction prise par les Saint-Sièges. Aucune recherche jusqu'aujourd'hui n'a été menée sur la réception de cette ligne, de cette direction romaine dans la communauté ecclésiale. On peut dire que s'il ne manque pas de preuves de la persistance des formes traditionnelles de la dévotion en termes individualistes, intimistes, consolateurs, tomatologiques de cette dévotion, il ne manque pas non plus des documents écrits et visuels qui témoignent d'une adhésion populaire aux directives papales. Quoi qu'il en soit, avec l'événement de Léon XIII sur les trônes papales en 1878, Rome esquisse une nouvelle forme de politisation du culte de Saint-Joseph. En réalité, les premiers actes du nouveau pontife montrent une pleine consonance avec la perspective élaborée par Pie IX. Dans les premières encycliques du nouveau pape revient l'invitation à prier les saints pour qu'il accorde à l'Église la victoire sur les puissants ennemis du moment. La dévotion est toujours présentée comme une manière de ramener l'Église et la papauté à la condition que la société moderne et en particulier l'unification italienne leur a enlevé. À cet égard, une lettre pastorale de Pietro Giuseppe de Gaudenzi, évêque de Vigevano en Lombardie, est exemplaire. Elle est consacrée à illustrer l'enseignement de deux dernières papes sur Saint-Joseph. Le texte affirme que ce culte représente, je cite, l'épée accordée par Dieu à ses vicaires pour vaincre la colère infernale des ennemis modernes de l'Église, c'est-à-dire les disciples de la Révolution qui, depuis 1789, a dominé l'Europe et a conduit à la sécularisation de l'Italie. Léon XIII inclut aussi dans cette perspective quelques prescriptions sur l'exercice concret de la piété envers Joseph. En mars 1882, le pape accorde 100 jours d'indulgence à la récitation d'une prière spéciale quotidienne qui supplie les saints patrons de l'Église universelle d'être émus. Je cite, en voyant l'épouse mystique et les vicaires du Christ affligés, des douleurs et persécutés, afin que, grâce à son patronage, l'Église tout entière puisse servir Dieu en parfaite liberté, une fois détruite toute adversité et toute erreur dissipée. Les liens entre la dévotion à Saint-Joseph et l'appel à la liberté de l'Église renvoie évidemment à la libération du prisonnier au Vatican par la restitution à la papauté d'une certaine forme de pouvoir temporel. Mais il fait inévitablement aussi allusion à cette interprétation de la libertas ecclesiae qui a soutenu les rêves de la culture catholique intransigeante de reconstituer la chrétienté médiévale. Dans ce climat, il n'est pas surprenant de voir la reprise d'un mouvement de demande de Amplificando Culto Sancti Iosefi. En 1827, un jésuite français, Cyprien Macabio, développa une controverse vive et savante contre les textes de Girolamo Sacchieri, que j'ai cité, concernant la dilatation des honneurs liturgiques à Saint-Joseph. C'est un texte qui avait été peu de temps avant réédité dans les Analecta Iuris Pontifici, proposa qu'il soit reconnu comme un culte du perduli, comme Marie. Hein. À cette fin, il présenta un postulat que tous les évêques furent invités à signer. Le résultat fut, une fois de plus, un large débat dans la presse catholique auquel Léon XIII mit fin par les décrets ex quo, publié en août 1892. tout en se félicitant de l'augmentation de la piété à l'égard du saint patron de l'Église universelle, le pape déclara qu'il ne considérait aucune innovation liturgique dans ce domaine comme appropriée. En réalité, Léon XIII avait désormais l'intention de promouvoir ce type de piété avec d'autres contenus en actualisant sa dimension politique. Un premier signe de cette orientation fut donné à l'occasion du célèbre pèlerinage des ouvriers français à Rome en octobre 1887 sous la conduite d'Albert Demand. À l'issue d'un discours dans lequel, pour la première fois, il exposait les principes des restaurations sociales, puis après largement développés par l'encyclique Rerum Novarum, le pape, recevant les pèlerins, leur donna une médaille d'argent. Sur une face était représentée l'Immaculée Conception et sur l'autre Saint-Joseph, avec l'inscription « Ecclesiae Patronus ». L'essence de l'événement est bien clarifié par le journal Il Divoto di San Giuseppe, il y a aussi d'autres témoignages, mais je me limite à ces témoignages. La piété envers les saints patrons de l'Église universelle continue à représenter un moyen de garantir la victoire de l'Église sur la société moderne, mais prend maintenant une connotation liée aux besoins des temps nouveaux. Elle fournit les modèles de vie corrects pour ces travailleurs qui, pouvant facilement devenir victime de l'agitation subversive à la suite des difficultés économiques où ils vivent, constituent les plus grands dangers pour l'ordre chrétien et civil de la vie collective. Puis après, en août 1889, Léon XIII clarifia encore sa position avec l'encyclique « Quamquam Pluries » entièrement consacrée, et c'est la première fois dans l'histoire du magistère papal qu'une encyclique est entièrement consacrée à Saint-Joseph, qui est dédiée à la dévotion à Saint-Joseph. Les textes commencent par réaffirmer la conception des avancées par Pie IX pour surmonter les difficultés dans lesquelles se trouvent l'Église et la papauté, que la société moderne a fait objet d'une guerre diabolique dans le but d'éradiquer l'existence même de la religion et par là même arriver à la dissolution de la société civile, il faut que croisse la piété envers Saint-Joseph. Son rôle d'époux de Marie et de père putatif de Jésus lui confère une capacité de médiation et d'intercession à laquelle la miséricorde divine ne peut guère résister. Telles sont les raisons de la prière spéciale à Saint-Joseph qui clôt l'encyclique et que le pape ordonne de réciter pendant tout le mois d'octobre après les chapelets pour toutes les années à venir. Les textes de cette prière, fruit d'un processus éditorial très complexe et très difficultueux, je ne peux pas creuser la question, invoque du patronage du saint la défaite de ce qu'il appelle, la prière appelle, les pouvoirs des ténèbres. La phrase n'est pas innocente, naturellement. Elle rappelle une conception alors répandue dans la curie romaine, dans l'histoire contemporaine et à l'œuvre, à l'instigation du démon, une secte judéo-maçonnique occulte qui, pour détruire l'Église, avait d'abord eu recours au libéralisme et utilisait désormais le socialisme. Au cours de l'encyclique, Léon XIII ajoute une autre raison pour laquelle le patron de l'Église universelle doit devenir l'objet d'une vénération qu'il veut faire pénétrer dans les coutumes et les institutions catholiques afin de vaincre le monde moderne, encore décrit aussi dans les corps de l'Église de l'encyclique sous l'emprise du pouvoir des ténèbres. Le saint fournit un modèle de vertu à imiter pour différents groupes sociaux, Messie Ignafrata a cité cette phrase, mais surtout pour les prolétariats et les travailleurs. En consacrant ses efforts à la subsistance de la sainte famille et en se montrant toujours « contentus et suo et parvo », heureux du peu qu'il possédait, il a montré quelle vertu ennoblissent la condition, même misérable, de l'ouvrier et font de son travail un titre d'honneur. De plus, par son exemple, tous ceux qui vivent du travail de leurs mains peuvent comprendre que la justice leur permet de sortir de la pauvreté et d'améliorer leurs conditions de vie, mais que ni la justice ni la raison ne permettent la subversion de l'ordre établi par Dieu. Quamquam pluries répète donc que pour la reconstruction de la société chrétienne et la disparition des maux causés au monde contemporain par l'apostasie de la religion catholique, il convient de recourir à la promotion de la piété à Saint-Joseph, mais il l'oriente maintenant dans une nouvelle direction. L'encyclique léonine appelle non seulement à multiplier les pratiques pieuses et les exercices de dévotion envers les patriarches de Nazareth pour surmonter l'attaque destructrice que la société moderne a portée contre l'Église, mais elle fait d'abord de la diffusion de ces cultes un canal pour instituer une pratique sociale précise parmi les masses d'ouvriers minées par la propagande socialiste. Il n'est fait aucun doute que le thème de Saint-Joseph artisan est à cette époque une tradition séculaire derrière lui. Il suffit de penser aux représentations visuelles du sujet qui sont présentes dans l'art chrétien des siècles précédents. Cependant, il est désormais compris comme le moyen d'introduire chez les travailleurs une pratique sociale qui ne se limite à accepter patiemment un ordre de la vie collective que la Providence a toujours voulu diviser en riche et en pauvre, selon la traditionnelle conception catholique. Certes, l'image de Saint-Joseph proposée par Léon XIII exige de l'ouvrier qu'il soit sobre, frugal, animé par le respect de la répartition existante de la propriété, précisément heureux du peu qu'il possède, mais légitime aussi son besoin d'amélioration économique et son exigence de justice, à condition bien sûr que ces objectifs ne se poursuivent ni avec violence, ni parmi les agitateurs socialistes, mais sous la direction de l'Église elle-même. Le pape affirme explicitement qu'il veut participer à l'expansion de la dévotion à Saint-Joseph qui s'est introduite au cours du siècle et l'étendre davantage. Il apporte de nouvelles raisons de soutenir ce développement. Léon XIII entend profiter du mouvement joséphine pour donner à cette forme de piété, sur les plans sentimental et religieux, un contenu politique précis. Les recours au culte de Saint-Joseph devraient introduire, dans une population encore largement liée à l'Église et à ses rites, ces principes de légitimation de l'aspiration au progrès économique par la construction d'un ordre social chrétien qui peut après l'encyclique Rerum Novarum va dessiner sur le plan doctrinal et théologique. Saint-Joseph est ainsi sur le point de devenir le saint patron des ouvriers. La proclamation officielle aura lieu plusieurs décennies plus tard, en mars 1945, par la volonté de Pie XII, qui, en 1955, annule la fête du patron de l'Église universelle fixée à la troisième dimanche après Pâques dans les calendriers liturgiques et la remplace par la fête de Saint-Joseph, artisan fixée au 1er mai. Mais avant d'arriver à ces résultats, le culte du saint aura été à nouveau caractérisé par une autre inflexion. En juillet 1920, Benoît XV, avec son motu proprio « Bonum Sane », publié à l'occasion du 50e anniversaire de la proclamation de Saint-Joseph comme saint patron de l'Église universelle, oriente la piété pour les saints vers une promotion du modèle idéal de la famille catholique secouée par l'affaiblissement des liens parentaux provoqués par les événements de la Grande Guerre. C'est un autre témoignage de la politisation de la piété envers Saint-Joseph à l'époque contemporaine. L'autorité ecclésiastique redéfinit son saint par rapport à la variation des menaces qu'elle croit apporter par la modernité aux structures de ces régimes de chrétienté proposés au moins jusqu'au Concile Vatican II comme un modèle idéal pour la société chrétienne. Merci bien.
Merci beaucoup à vous et merci pour ce bel effort. Vous avez prononcé votre intervention en français.
et c'était remarquablement compréhensible. Merci beaucoup.
Merci.